Pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, il y a un an, le Rana Plaza, un immeuble de 9 étages, s'écroulait comme un millefeuille, entraînant la mort de 1200 ouvriers du textile, autant de disparus et des centaines de blessés. Une catastrophe d'une ampleur inédite à Dhaka, la capitale du Bangladesh, habituée pourtant aux incidents meurtriers dans ces milliers de fabriques de vêtements où sous-traitent les grandes marques internationales à des prix toujours plus bas, comme le dénonce ce directeur d'usine.
Nos clients, ils font 40% de profit et nous, on ne peut même pas faire 3 ou 5%.
Ils ne veulent pas discuter de ça ?
Ils s'en foutent.
Ils ne pensent pas aux ouvriers, alors ?
Non, ils se disent, le Bangladesh, c'est pas cher. C'est pour ça qu'on est là. Si le Bangladesh devient plus cher, on ira au Vietnam ou en Birmanie. L'éthique, on s'en fout. Les droits de l'homme, tout ça, c'est des conneries. Nous, ce qu'on veut, c'est faire du fric. Voilà ce qu'ils pensent.
Le drame du Rana Plaza a une nouvelle fois révélé la face cachée et sordide de la mondialisation. Un an plus tard, quelle est la situation au Bangladesh ? Comment ont réagi les multinationales ? On en parle tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission.
C'est pas du vent sur RFI.
La Birmanie s'ouvre au monde depuis la dissolution de la junte militaire en mars 2011. Pas question encore de parler de démocratie, notamment parce que la persécution de certaines minorités ethniques perdure, malgré la condamnation de l'opinion internationale. Mais désormais, il est possible de faire des reportages dans ce pays. Et notre correspondant Rémi Favre nous emmène sur les rives du lac Inle, à 1000 mètres d'altitude, dans un pli du plateau de l'état de Shan, dans le nord-est du pays. Un décor de carte postale que les Inta, l'ethnie locale, ont bien l'intention de conserver, et c'est urgent parce que le lac est en train de disparaître.
Alors on quitte le village de Chouewaji en bateau. On passe à côté de plantations de tomates, de jardins flottants, de plantations d'aubergines. C'est très joli, hein. On prend des petits canaux qui serpentent dans ces plantations et entre les maisons sur pilotis. On va bientôt arriver sur le lac. Et on part en compagnie de deux pêcheurs qui veulent nous montrer une fishing free zone, donc une zone qui est interdite à la pêche, qui est réservé à la reproduction des poissons pour essayer de faire en sorte que les poissons disparaissent moins vite dans le lac Inle.
Bonjour, je m'appelle Hussein Wayne, je suis pêcheur.
Est-ce que la pêche est une bonne activité ?
Ce n'est pas bon pour les affaires, mais c'est suffisant pour vivre. Il n'y a plus beaucoup de poissons dans le lac. Et les prix à la vente ne sont pas élevés. C'est pour cela que les affaires ne sont pas bonnes. Les prix sont intéressants pour le poisson gafeng. Mais nous ne le trouvons quasiment plus. Le gafeng est une sorte de carpe du lac. Il n'y en a plus beaucoup car le niveau d'eau du lac baisse. Il y a de moins en moins d'eau. Et les œufs de cette carpe se font manger par d'autres poissons, comme le tilapia. Nous attrapons des tilapia depuis 5 ou 10 ans seulement.
Est-ce que vous obtenez un bon prix de la vente des tilapia ?
C'est un poisson qui n'est pas cher. Environ 35 centimes d'euros le kilo. Le gafeng est meilleur au goût. Et nous obtenons un meilleur prix. Mais je n'en attrape pas souvent. Peut-être 4 ou 5 fois dans le mois en ce moment. Car c'est la bonne saison. Nous préférons attraper des gafeng. C'est pareil pour tous les pêcheurs, car nous en tirons un bien meilleur prix que pour le tilapia. De nos jours, le niveau d'eau est bas. Il n'y a plus assez d'eau. Les zones marécageuses de reproduction sont de moins en moins nombreuses. Et il y a des pêcheurs qui utilisent de mauvaises techniques. Ils tendent des filets et effraient les poissons pour les pousser dedans. Ou encore, ils utilisent des batteries de voitures pour électrocuter dans l'eau les poissons, quelle que soit leur taille.
On arrive sur le lac Inle, cette immense étendue d'eau entre deux chaînes de montagnes. On voit au loin des bateaux de touristes qui sillonnent le lac et qui vont de village en village pour visiter les ateliers d'artisanat. Et puis on commence à voir aussi des barques de pêcheurs Alors les pêcheurs au lac Kinlé ont une technique très très particulière pour se déplacer sur le lac. C'est-à-dire qu'ils sont debout à l'arrière de leur barque sur un pied parce qu'en fait ils utilisent l'autre jambe pour ramer. C'est-à-dire qu'ils coincent la rame dans le creux du genou, autour de la jambe et sous l'épaule, ce qui leur permet d'avoir les deux mains libres pour enrouler ou dérouler leur filet. C'est très impressionnant parce qu'on a l'impression en fait qu'ils marchent sur l'eau.
Je m'appelle Usomoti. J'habite à Shewagi. Je suis pêcheur. J'ai 30 ans. Nous sommes ici dans une zone de pêche interdite du lac Kinlé. Elle a une surface d'environ 120 hectares. Cette réserve est une bonne idée. Les gens de l'ethnie Inta pêchent ailleurs et ils savent que les poissons peuvent se reproduire et grandir ici. Nous avons reçu des formations et des informations à propos de cette zone de pêche interdite au lac Kinlé. Les gens de l'ethnie Inta comprennent bien son intérêt.
Mais n'est-il pas trop tard ? Car la vie aquatique souffre depuis de nombreuses années au lac Kinlé et certains dégâts ne sont déjà plus réparables. Kain Kain Sue travaille pour l'association Friends of Wildlife.
D'après nos études, il y a plus que 7 espèces de poissons dans cette région. Le Gatangwe a complètement disparu. C'est un gros poisson. Les pêcheurs locaux disent qu'il pesait jusqu'à 8 kilos.
Et ce Ngatangwe, est-ce qu'on le trouve ailleurs, dans d'autres lacs ou rivières de Birmanie ?
On ne le rencontre pas ailleurs. Le département des pêches a d'abord introduit le tilapia dans le pays, il y a une dizaine d'années. Il y avait beaucoup de bassins d'élevage autour du lac. Et des gens ont élevé le tilapia pour faire des affaires. Et quand il y a eu des inondations, au niveau de ces bassins, le tilapia est entré dans le lac. Et ce n'est pas bon pour les espèces locales. Le tilapia mange les autres, notamment les œufs des autres poissons. Ce n'est pas bon pour la biodiversité.
L'association Friends of Wildlife a mesuré la qualité de l'eau du lac. Il y a une trentaine d'années, l'eau était potable. Aujourd'hui, elle est alcaline, c'est-à-dire que son pH est supérieur à 7. À cause des engrais chimiques et des pesticides utilisés par les maraîchers, à cause aussi de la déforestation et de l'érosion qui poussent les terres calcaires des montagnes alentour dans le lac. Cette association incite les pêcheurs à élever des espèces menacées pour en relâcher une partie dans le lac. C'est ce que fait Sui Nang Hu, il a un bassin derrière sa maison. Dans votre village, ici à Taléou, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des bassins comme le vôtre et qui relâchent les poissons dans le lac ?
Personne d'autre. La plupart des gens préfèrent cultiver la terre dans ce village. Pourtant, élever des poissons rapporte plus, surtout les espèces rares. Mais les villageois ne connaissent pas cette activité. Ils ne savent pas que l'on peut gagner de l'argent de cette façon.
Nous partons maintenant sur les hauteurs du lac Kinlé, à l'ouest, en compagnie de Hu Ba Tan, qui nous sert de guide. Il est spécialiste de l'environnement et de la forêt. Il travaille pour le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement.
Là, nous sommes dans le village de Zeigon, dans le township de Klau. C'est un des trois townships dans lequel nous travaillons pour notre projet à Inlé. Nous sommes à environ 65 km du lac Inlé.
Et il y a un petit ruisseau qui coule dans ce village.
Oui, c'est le ruisseau Klau Chang. C'est un des principaux affluents du lac Inlé. Il apporte des sédiments, il coule toute l'année.
Et dans ce village, vous replantez des arbres, c'est ça ?
Oui,
nous incitons les villageois, la communauté à le faire. Ils font les semis et puis ils replantent.
Quelle est la conséquence de la déforestation sur le lac en aval ?
Oui, la conséquence, c'est une érosion importante. Il y a 28 autres affluents qui alimentent le lac Inlay. Ils emportent les sédiments des hauts plateaux vers le lac Inlay. Et l'eau est alors de moins en moins profonde. La quantité d'eau dans le lac diminue.
Si ça continue comme cela, est-ce que le lac va disparaître un jour ?
Oui, certains experts estiment qu'à ce rythme-là, et si rien n'est fait pour conserver le lac, il disparaîtra d'ici 50 à 150 ans. Avant 2010, les gens ne croyaient pas au fait que l'eau était de plus en plus basse. Mais maintenant, ils le reconnaissent et ils participent aux activités de notre projet.
Est-ce que les autorités font quelque chose pour l'environnement et le lac ?
Oui, elles agissent depuis longtemps. Mais le problème, c'est qu'elles n'agissent pas en coopération avec les gens. Elles ont une mauvaise approche. Elles ne demandent pas l'avis des villageois. Elles raisonnent juste en experts, à ce qui leur semble le mieux. Et ensuite, elles disent aux gens, faites ça. Vous voyez ce bosquet de bambou ? Il fait peut-être 6-7 mètres de long sur 7 mètres de large. La moitié du bosquet est tombée dans le ruisseau. Sans action pour conserver les sols, comme ces talus et ces tranchées, eh bien, d'ici quelques années, tous ces bosquets et toutes ces terres tomberont dans le ruisseau et finiront dans le lac Inlay. Maintenant, les paysans mettent en place des mesures pour la conservation des sols. Et il nous faudra voir l'effet sur l'érosion et sur ces bosquets de bambou.
Le PNUD a aussi introduit de nouvelles techniques de culture dans cette région. Certains paysans ne labourent plus la terre, comme Konyini Ang.
L'avantage de cette technique, c'est que ça empêche l'érosion par le ruissellement des eaux de pluie. On ne laboure pas et ça empêche la terre de partir. Et quand il y a de grosses pluies, il y a moins de sédiments et de terre qui partent dans les ruisseaux et qui se déposent ensuite dans le lac. Au village, cette année, j'ai commencé seul à adopter cette technique. Maintenant, nous sommes 4 à le faire et je pense que nous serons une dizaine l'année prochaine. J'espère que mes collègues vont s'y mettre parce que cette technique réduit aussi le coût de production, notamment en main-d'œuvre. Et la production est quasiment la même, les revenus aussi.
Le problème, c'est que ces activités de protection de l'environnement ont été mises en place ces 2 dernières années seulement dans un nombre de villages très restreint, alors que le lac, lui, souffre depuis des décennies. C'est ce qui inquiète Ubatan, le spécialiste de l'environnement et de la forêt pour le PNUD.
Il y a 29 affluents au lac Inlay. Et nous travaillons le long d'un seul affluent, le Klochang, et dans quelques villages seulement. Donc l'impact est limité. Nous devons répliquer ces activités le long des autres affluents. Le problème, c'est que nous avons des capacités financières limitées. Chaque activité, les formations, les campagnes de sensibilisation, les activités agricoles, pour tout cela, il faut de l'argent. C'est le problème. Il nous faut des bailleurs. Si nous avions plus de bailleurs, nous pourrions changer les choses au lac Inlay plus rapidement. Sinon, eh bien, ça prendra plus de temps. Et si nous ne faisons rien, le lac va peut-être disparaître.
Nous sommes à Nyang Shui. Nyang Shui, c'est une petite ville qui est située à environ 10 km au nord du lac Inle, sur une rivière qui alimente le lac. C'est ici, en général, qu'on prend un bateau pour se rendre sur le lac ou dans les villages qui le bordent pour les visiter. Le matin, il y a beaucoup de bateaux, on voit beaucoup de bateaux qui viennent du lac et qui remontent la rivière, sans doute vers le marché de Nyang Shui, et qui sont chargés de gros paniers remplis de tomates bien mûres et d'autres légumes. On voit des courges, des potirons par exemple. La région du lac Inle est très très renommée en Birmanie pour les tomates parce que évidemment il y a de l'eau ici toute l'année, donc on peut en produire toute l'année, et puis le climat est très propice, c'est-à-dire que c'est très ensoleillé mais à la fois pas trop chaud puisqu'on est en altitude, à environ 1000 mètres d'altitude. On va prendre un bateau ce matin pour aller dans des villages autour du lac et rencontrer des producteurs de tomates.
Je m'appelle Mizo. Je suis spécialiste de l'agriculture. Je travaille pour le projet Inle, financé par les Norvégiens et mis en œuvre par le PNUD et le ministère des Forêts.
Alors, tous ces jardins-là, ce sont des jardins flottants.
Oui, ce sont des jardins flottants.
Comment sont-ils construits ?
Ils sont faits de plantes aquatiques et de racines qui sont creuses et qui contiennent de l'air, ce qui fait que les jardins flottent.
Et je vois des pieux de bambou.
Oui, pour maintenir les jardins là où ils sont, afin qu'ils ne dérivent pas, quand il y a beaucoup d'eau, les jardins montent. Et quand le niveau est bas, les jardins descendent. C'est la façon de faire traditionnelle des gens d'ici.
Bonjour. Demain, je vais replanter des pieds de tomates. Je prépare maintenant le terrain. Je prends de la boue au fond du lac et je la dépose sur mon jardin flottant.
Producteur de tomates, c'est un bon travail ?
Tomato farmer, is it a good job here?
Oui, c'est bien. L'an dernier, j'ai dégagé 4 ou 5 000 dollars de bénéfices.
Est-ce que vous utilisez des pesticides et des engrais chimiques?
Oui.
Beaucoup?
L'an dernier, j'ai utilisé 20 sacs d'engrais de 50 kilos chacun. Le compost seul n'est pas suffisant. Alors j'utilise des engrais chimiques, mais le compost est meilleur. Il y a beaucoup d'avantages. La plante développe des racines plus solides, les tiges sont plus grosses, et la couleur des feuilles est aussi meilleure grâce au compost.
Je m'appelle Kyo Fuang, j'habite au village de Mianingon.
Qu'est-ce que vous mettez dans ce bac à compost ?
On y met de l'eau, des jacinthes d'eau que l'on ramasse sur le lac, et des troncs et des feuilles de bananier. On laisse reposer le tout 3 mois durant avec des vers qui viennent d'Inde. Si on compare l'engrais chimique et le compost est meilleur. La récolte est un petit peu moins importante, mais les coûts de production sont beaucoup moins élevés.
Et maintenant, vous utilisez uniquement du compost ou encore un peu de produits chimiques ?
On utilise les deux. On veut utiliser de plus en plus de compost. On essaie de réduire les produits chimiques. Quand on plante, on utilise l'engrais chimique dès le début, car cela permet à la plante de bien se développer et de résister aux maladies et aux éventuelles intempéries. Ensuite, quand les plants sont plus grands, on utilise le compost. Une vingtaine de paysans utilisent cet engrais naturel au village.
Un reportage de Rémi Favre, réalisé par François Porcheron. Restez sur RFI, juste après le flash d'info, nous ferons le point sur la situation des travailleurs du textile au Bangladesh, un an après la catastrophe du Rana Plaza. À tout de suite.